Mon exposé se déroulera en trois temps. 1. J'expliquerai ce que l'on comprend par Cultural Studies et introduirai la notion spatiale ainsi que le tournant spatial. 2. Je présenterai les questions et les points centraux de ma thèse avec le titre allemand Unterwegs zum anderen, Literarische Erfahrungen der kriegerischen Auflösung Jugoslawiens aus deutschsprachiger Perspektive. En route vers l'autre, Littérature de l'expérience face aux guerres en ex-Yougoslavie dans l'espace germanophone, pour me concentrer ensuite sur les concepts de balkanisme de Maria Todorova et d'orientalisme d'Edward Said, deux concepts qui s'inscrivent dans le tournant spatial. Et 3, je présenterai enfin et en toute vitesse le travail d'Omika Bava et ses concepts de tiers espace et d'hybridité. Bon, je commence avec la première partie. Qu'est-ce que c'est les cultural studies, les études de la culture, les études culturelles? Le terme cultural studies renvoie à la tradition anglo-saxonne et post-marxiste, au projet intellectuel et politique né à Birmingham dans les années 60 et qui a connu un grand succès dans les universités anglo-saxonnes dans les années 80 et 90. Avec comme père fondateur et figure centrale Richard Hogarth, Raymond Williams et plus tard Stuart Hall. L'enjeu des cultural studies est d'analyser et de démontrer comment la vie quotidienne de l'homme est influencée par la culture, tout en s'intéressant aux questions du pouvoir et en cherchant à développer des stratégies pour que l'homme en tant que sujet politique puisse s'approprier et élargir ses marges de manœuvre. Le terme « culture » dans les cultural studies ne prenne pas la culture au sens de « Hochkultur », de culture savante, comme système fermé et élitiste. Non, les cultural studies opèrent plutôt avec une notion de la culture qui intègre l'ensemble des formes symboliques et pratiques habituelles. « Culture is whole way of life ». Impossible donc de codifier la culture, de la décrire de manière définitive. Elle se manifeste dans l'alternance de différents processus et pratiques sociales, économiques et politiques. Les objets de recherche, les études de cas entrepris par les cultural studies sont donc très hétéroclites. Le terme de Kulturwissenschaft ou Kulturwissenschaften au pluriel, terme spongieux s'il en est, est utilisé quant à lui au singulier comme au pluriel. Les Kulturwissenschaften peuvent être comprises comme l'ensemble des disciplines jadis désignées comme Geistes- und Sozialwissenschaften, les sciences humaines et sociales. Il s'agit là d'un simple changement de nom. D'un autre côté, le terme renvoie également à l'ensemble des disciplines qui se sont ralliées au projet d'étudier le phénomène multidimensionnel qu'est la culture, à savoir ethnologie, littérature, histoire, anthropologie, etc., sans pour autant focaliser sur les questions de pouvoir à l'instant des cultural studies. Ce n'est donc pas un hasard que ces études à l'Université de Vienne portent le double nom de Kulturwissenschaften, Cultural Studies. Ce qui est, à mon avis, central pour toute approche scientifico-culturelle, c'est de prendre comme départ l'idée que les données culturelles ne sont pas naturelles, mais construites, et que la construction de culture ou d'identité culturelle n'est pas dépourvue de mécanismes et d'enjeux de pouvoir. Quant à la situation des études culturelles en France, je peux vous faire partager mon point de vue de l'étranger. Le décalage notable dans la chronologie de la réception de chaque côté du Rhin des outils analytiques offerts par les cultural studies, mais aussi des études de genre, gender studies, et, dans une mesure plus modeste, des études postcoloniales, a certainement à voir en partie avec le fait que la France dispose d'une intense tradition de production théorique, Theoriebildung, reconnue sur le plan international. Une fertilité qui, paradoxalement, et ce jusqu'à la fin du XXe siècle, a renforcé la tendance à une pensée hexagonale, très sélective, si paraît-il, aux apports théoriques non français. Par ailleurs, le poids de la perception moderniste du cinéma, par exemple, a elle aussi longtemps participé à repousser toute approche non formaliste dans les UFR de filmologie. pour Birgit Wagner, romaniste bernoise et directrice de thèse aussi de Hildegard, cette résistance est également à attribuer au strict cloisonnement des disciplines scientifiques. La croissance des productions issues de centres d'études inter- ou transdisciplinaires français commence néanmoins à être remarquée dans l'espace germanophone. Bon, passons à la notion d'espace. Depuis la fin des années 80, il est fait mention d'un tournant spatial dans les sciences humaines et sociales. On parle en effet de plusieurs turns, plusieurs tournants. Le performative turn, le postcolonial turn, le translational turn, l'iconic turn, pour n'en citer que quelques-uns. Des tournants qui découlent tous d'un tournant originaire, le linguistic turn. Ce tournant linguistique, dont la matrice remonte à la théorie du langage de Ferdinand de Saussure, place le langage et l'analyse du langage au premier plan et influencera de manière considérable le structuralisme. Le tournant linguistique part de l'idée qu'il n'y a pas de réalité en dessous ou au-delà du langage. Toute réalité et toute analyse de la réalité est déterminée par le langage. Le langage n'est donc pas un instrument pour décrire objectivement la réalité, ceci n'est pas possible. Le langage, c'est plutôt un instrument constitutif de la réalité. Mon propos ne vise pas à faire un résumé des conditions et du contexte d'émergence du tournant linguistique, ni de présenter sa réception dans les disciplines différentes, je pense à l'histoire, et les polémiques qui en partie ont accompagné cette réception. Mais il est néanmoins important de rattacher le tournant linguistique à une autre mouvance épistémologique et politique dans la deuxième moitié du XXe siècle, à savoir la crise des grands récits, au sens politique comme esthétique. Cette crise se cristallise dans les théories du postmodernisme, dont les paramètres sont une méfiance à l'égard du principe de causalité et de toute téléologie, la critique d'une pensée essentialiste et totalisante, la critique du sujet parlant souverain et la critique d'une réalité objective cachée derrière les signes. Pour Doris Bachmann-Medick, théoricienne de culture allemande et auteure d'un livre référent sur les différents tournants succédant au tournant linguistique, le tournant spatial est un enfant du postmodernisme. Frederick Jameson, représentant et acteur central du postmodernisme, avait, à la fin des années 80, lancé comme mot d'ordre « Always spatialize ». Cet appel à la spatialisation vient d'une perception de soi toute postmoderne et marquée par l'espace, tout à la différence de la modernité qui, elle, reconnaissait le temps comme catégorie centrale. Quand je parle d'espace, space, realm, il faut poser au préalable que toute conceptualisation scientifique-culturelle de l'espace est basée sur une conception relativiste de celui-ci. Ce qui caractérise tous les modèles d'espace discutés de nos jours, c'est qu'il ne s'agit pas d'espace statique et présent d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, l'espace n'est plus pensé comme un contenant, comme territorialité, comme entité physique. Non. L'espace mis en jeu dans les cultural studies, c'est un espace qui rompt avec l'idée de substance. Cette rupture avec l'idée d'espace comme entité autonome a d'ailleurs été conduite par les historiens de l'École des Annales, Marc Bloch et Fernand Braudel. Pour ces derniers, culture et nature sont liées de manière fonctionnelle et c'est de cette relation que naît la spatialité. Les sociologues Émile Durkheim et Georg Simmel peuvent être considérés comme d'autres précurseurs du tournant spatial par leur conception de l'espace comme construction sociale. Henri Lefebvre, enfin, dans La production de l'espace, 1974, a mis en valeur l'importance de l'espace qui est toujours politique. L'espace est le produit de la société, chaque société produit son propre espace. Autre incunable de travaux sur le tournant spatial, Des espaces autres, 1967, et un texte dans lequel Michel Foucault présente son concept d'hétérotopie. Tel quel, l'espace n'existe pas. Il est approprié et produit par nos imaginations et perceptions. c'est à quoi la notion de géographie imaginaire renvoie, par notre parole et surtout par nos actes sociaux, c'est-à-dire par le travail, par les mouvements, par le corps et les pratiques culturelles. Si le discursif y joue un rôle certain, l'espace dans les textes clés du tournant spatial n'est pourtant pas conceptualisé en premier lieu en tant que problème discursif, mais bien comme construction sociale, ce qui implique que toute étude sur l'espace puisse donc intégrer des questionnements sur la matérialité, les idées de changement, d'action. En ceci, le tournant spatial diffère du tournant linguistique. Il leur reste en commun leur préférence pour la synchronie à la diachronie et le systémique à l'historique. Quelles sont les conséquences de ce nouvel intérêt pour la notion spatiale en littérature? L'espace narré n'a pas attendu le tournant spatial pour devenir un objet de recherche, même si cet intérêt relevait plutôt d'une focalisation thématique. Depuis, les lieux narrés dans les textes littéraires ne sont plus seulement traités comme motifs, l'attention s'est déplacée sur les procédés par lesquels un texte littéraire pense et crée son propre locus. Un paysage textuel se voit constitué par les actions, constructions humaines et littéraires. En même temps, cette nouvelle découverte du spatial éloigne d'une surévaluation des espaces intérieurs et amène à une réévaluation des espaces réels, comme sujet, mais aussi comme condition d'un texte littéraire. Le triomphe du concept d'espace dans les sciences culturelles, sociales et les sciences de la Terre, mais aussi donc dans les sciences littéraires et historiques, s'explique en partie aussi par les événements politiques survenus à la fin des années 80. Le délabrement de la structure géopolitique de blocs et les déplacements de pouvoir qui allaient de pair, bien sûr, mais aussi le développement de l'Internet qui a permis de mettre en avant les discussions publiques liées aux catégories de l'espace. Tout tournant comporte sa part de contradictions, de retours de bâton. Nous pourrions ainsi nous demander si, à l'aune du prétendu tournant spatial et du retour de l'espace comme catégorie d'analyse, nous n'assisterions pas plutôt à l'essor de son contraire, notamment à la disparition de l'espace. Pensons au phénomène de dissolution de l'espace induit par les progrès techniques et électroniques, la vitesse et au franchissement des distances. On parle aussi de translocalité, Marc Auger de non-lieu, de déracinement, des phénomènes qui eux aussi suscitent des réponses aux solutions opposées au tournant spatial, à savoir une redécouverte du local, du régional, de l'origine, de Heimat. En géopolitique, nous constatons également une conception spatiale traditionnelle qui ne cesse d'opérer avec des attributions distinctives territoriales telles que nord-sud, centre-périphérie, etc. Nord-sud, centre-périphérie, est-ouest, ce sont des paires d'opposition régies par une logique et une dynamique dichotomique issue de la tradition occidentale de définir des termes par leur contraire et non par leur signification propre. Souvent, ces paires d'opposition masquent une asymétrie culturelle, asymétrie également à l'œuvre dans la perception et représentation des guerres d'ex-Yougoslavie. Les guerres d'ex-Yougoslavie, ce sont la guerre en Slovénie, connue sous le nom de guerre des 10 jours, 27 juin au 6 juillet 91, la guerre en Croatie, 91 à 95, la guerre en Bosnie, 92 à 95, et la double guerre du Kosovo. À partir de mars 98, l'armée yougoslave s'est confrontée à l'armée de libération du Kosovo, puis du 23 mars au 10 juin 99, l'OTAN a bombardé les cibles serbes yougoslaves à l'époque. La dénomination de guerre, au pluriel ou singulier, d'ex-Yougoslavie comme troisième guerre balkanique fait, par sa caractérisation géographique, appel à un type de guerre apparemment spécifique. Pour mémoire, les guerres balkaniques désignent les conflits qui ont éclaté dans les Balkans en 1912 et 1913 opposant l'Empire ottoman aux pays de la Ligue balkanique, c'était la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro, qui aspiraient à s'émanciper de la domination turque et à s'ériger en État. Ajoutons à cela que le terme « Balkan » revêtit dans l'historiographie occidentale une connotation péjorative qui a joué et joue encore un rôle considérable dans le discours politico-médiatique sur les guerres. J'y reviendrai encore. Je ne pourrai pas exposer en détail les enjeux de ma thèse qui interroge aussi, au-delà des frontières de la littérature, le rôle joué en Allemagne et en Autriche par les guerres de l'autre, la Yougoslavie, dans leur propre discours, propre négociation identitaire durant les années 90. L'Autriche se préparait alors à devenir membre de la communauté européenne, tandis que l'Allemagne réunifiée, revenait sur le parquet international, diplomatique et militaire. Je ne pourrai pas non plus présenter mes analyses de textes littéraires, mais souhaiterais quand même les évoquer pour vous donner une idée du corpus. Il s'agit là de textes d'auteurs autrichiens et allemands, mais pas d'helvètes, qui ont pour point commun un ou une protagoniste, quelquefois l'auteur, sous forme de récit de voyage, quittant l'Autriche, l'Allemagne ou la France avec Peter Handke pour voyager en Yougoslavie ou ancienne Yougoslavie et ses nouveaux États. Sur place, dans des pays encore en guerre ou traversant l'immédiat après-guerre, les personnages deviennent des témoins du vécu ou du passé ou finissent par s'y empêtrer. J'ai porté mon attention sur les récits de voyage et sur des textes en prose qui ont le voyage comme motif central, car la majorité du corpus littéraire germanophone sur les guerres en ancienne Yougoslavie ont opté pour la villégiature comme structure narrative permettant à leurs auteurs de combiner distance dans le sens d'appartenance culturelle et proximité dans le sens de présence spatiale. Les auteurs de mon corpus sont, en commençant par les Autrichiens, Peter Handke. Handke est parmi tous les écrivains germanophones, c'est lui qui a publié le plus sur l'ancienne Yougoslavie, dont les œuvres ont monopolisé, et même, je dirais, pendant un certain temps, paralysé la production littéraire sur les guerres en ex-Yougoslavie. Tous ses textes sur le sujet ne sont pas traduits, mais son récit de voyage en ouvrage central sur la question, à savoir « Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien » a lui bien été traduit de l'allemand par Georges Lefebvre sous le titre « Un voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina » Gallimard, 96. Ce texte parut d'abord en janvier 96 dans le quotidien Süddeutsche Zeitung, a aussitôt provoqué un débat tant en Allemagne et en Autriche qu'à l'étranger. Composé en trois parties, Handke y décrit et critique dans la première partie la façon dont les médias germanophones, mais également français, ont rendu compte de la Serbie, ainsi que l'attitude anti-serbe de nombreux intellectuels. Cependant, refusant de se livrer lui-même à un contre-reportage, il essaie plutôt, à l'aide d'une analyse de médias, de montrer comment un discours sur un pays se met en place à travers les interrogations de quelques personnes dont les voix sont suffisamment relayées pour pouvoir influencer la formation de l'opinion publique. Il cite et critique les intellectuels comme Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann et Peter Schneider. Mais il essaye aussi, en s'appuyant sur ses propres réactions face aux images véhiculées par les médias, de montrer à quel point il est difficile de remettre en question ce qui fait l'objet d'un consensus. Dans la deuxième partie du texte, Handke entreprend son propre voyage à travers la Serbie. Il y décrit les habitants, les villes, les paysages. Ils ne seront pas dans les régions directement touchées par la guerre, mais dans les idylliques régions fluviales. Une décision qui lui sera sévèrement reprochée. Le voyageur de Handke est un narrateur qui doute de lui-même, non seulement se trompe souvent, mais ne cesse également de remettre en question ses propres observations. Dans l'épilogue, Handke retourne à ses réflexions sur les reportages, la culpabilité et les intellectuels. Devant l'intensité des débats, Handke a entrepris une série de lectures publiques au printemps 1996 et a publié en septembre de la même année son « Sommerlicher Nachtrag zu einer winterlichen Reise », soit son addendum estival à un voyage hivernal. Il s'agit d'un autre récit de voyage en Serbie et cette fois-ci également en Bosnie, à Srebrenica. Après avoir publié une pièce sur la guerre et ses représentations en 1999, Die Fahrt im Einbaum oder das Stück zum Film vom Krieg, Le trajet en pirogue monoxyle ou la pièce à propos du film sur la guerre, et en 2000, un autre récit de voyage en Serbie pendant l'intervention de l'OTAN, Unter Tränen fragend, nachträgliche Aufzeichnungen von zwei Jugoslawien-Durchquerungen im Krieg, März und April 1999, Question à soi-même en larmes, Notre rétrospective sur deux traversées de la Yougoslavie en guerre, mars et avril 1999. Après plusieurs années de silence littéraire sur le cas yougoslave, il publie en 2008 Die Moravische Nacht, récit traduit par Olivier Lelay comme La nuit morave chez Gallimard en 2011. Cette fois, le lieu est une péniche amarrée dans une boucle de la Morave, affluent serbe du Danube, dans son enclave qui est aussi un territoire imaginaire. Un homme s'y réfugie depuis une dizaine d'années, un auteur qui a cessé d'écrire. Il reçoit plusieurs de ses disciples. Ce sont eux qui s'interrogent et eux qui racontent. Nous avons affaire avec un narrateur collectif en forme de nous, chose plutôt rare dans la littérature germanophone. Un autre écrivain autrichien a publié sur le sujet en se concentrant sur la région et la guerre en Croatie. Il s'agit de Norbert Gstrein, dont deux romans publiés en 2003 et 2008 s'interrogent sur les possibilités et impossibilités de raconter la guerre. Das Handwerk des Tötens, Le métier de tuer, traduit par Valérie de Daron chez Tepper en 2005, et Die Winter im Süden, Les hivers dans le sud non traduits. Et puis, il y a une écrivaine d'origine sud-coréenne qui a grandi en Allemagne et vit depuis ses études à Vienne, Anna Kim, qui a publié en 2008 un roman sur la guerre au Kosovo, Die gefrorene Zeit, Le temps gelé, non traduit. Parmi les Allemands, il y a Jule T., la première auteure depuis 1996, début du magister littéraire de Handke sur ces guerres, a publié sur le sujet avec un roman, Adler und Engel, L'aigle et l'ange, traduit par Jörg Kamberlang en 2004 chez Belfond, et surtout en 2002 son récit au journal de voyage sur la Bosnie, Die Stille ist ein Geräusch, Le silence est un bruit non traduit. Il y a enfin Sascha Stanišić, auteur d'origine bosniaque, exilé en Allemagne avec sa famille en 92, qui écrit en allemand et dont le premier roman a connu un grand succès dans l'espace germanophone avant d'être traduit dans 30 langues, dont le français par Françoise Touraille comme Le soldat et le gramophone chez Stock en 2008. Dans mon travail, je me suis surtout attachée aux perceptions de soi et perceptions des autres à l'œuvre dans les textes littéraires, débats et polémiques à propos de ces textes, ainsi que dans le discours public sur les guerres. Discours auquel la production littéraire n'a bien entendu pas été imperméable. Bien que je me suis concentrée sur les constructions et déconstructions d'identité, les catégories d'espace ont joué un rôle considérable dans mon analyse, des catégories ou notions appartenant à cette géographie imaginaire que sont balkanisme et orientalisme. Les balkanismes ont été employés comme motif prescripteur hégémonique, narratif et discursif dans les discours politiques et médiatiques autrichiens, allemands, mais aussi français, pour transformer les Balkans en symbole du caractère barbare, agressif, semi-civilisé, semi-oriental, semi-développé, etc. Cette opération de qualification de l'autre, les Balkans, en tant que tel, est un procédé de construction, de consolidation de sa propre identité, sa propre perception de soi. les Balkans comme l'autre de l'Autriche, de l'Allemagne, de la France ou de l'Occident. L'autre pour Foucault, c'est, je cite, ce qui, pour une culture, est à la fois intérieur et étranger, donc à exclure, pour en conjurer le péril intérieur, mais en l'enfermant, pour en réduire l'altérité. Fin de la citation. Les balkanismes sont ainsi des modèles permettant de concevoir l'autre ou les autres tout en participant à stabiliser la perception de soi. Discours hégémonique basé sur les modèles de perception développés par des étapes au cours du XVIIIe et XIXe siècle, les balkanismes se sont, par les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale, constitués en discours. Nous avons là encore affaire à une notion entourée par un flou terminologique considérable. Dans mon usage du terme de discours, je comprends, à la suite de Foucault, un ensemble d'énoncés et de formations de savoir liées au pouvoir. Et je pousse l'accent sur l'entremêlement entre langage et politique. Le concept de balkanisme a été forgé par Maria Todorova, historienne bulgare enseignant aux États-Unis, dans son ouvrage de 1997, Imagining the Balkans, traduit en allemand en 1999, mais en français qu'en 2011, Imaginaire des Balkans, IHESS. Les Balkans souffrent, selon Todorova, d'une identité multiple, car l'appellation renvoie à 1. Un nom géographique. Dès le XVe siècle, il désigne une chaîne de montagnes et à partir du XIXe siècle, l'ensemble de la péninsule. 2. Une métaphore avec, à partir du XXe siècle, une nette connotation péjorative, hormis en Bulgarie. 3. Une catégorie scientifique d'analyse. Et 4. Un héritage historique, ce qui est pour Todorova la catégorie la plus propice à une analyse diachronique de région. En s'appuyant sur l'analyse des récits de voyage publiés depuis plusieurs siècles, des reportages de journalistes contemporains et d'analystes experts, Todorova montre comment s'est formée une image qui tient lieu de grilles interprétatives quasiment uniques. Les Balkans en sont venus à figurer l'autre, sombre et négatif. Nous y avons affaire à la construction d'essentialisme culturel, présentant comme naturel ce qui a été construit par des intérêts politiques et économiques, par les enjeux de pouvoir. Todorova ne se lasse de répéter que les Balkans absorbent bel et bien une série de tensions et de contradictions politiques, idéologiques et culturelles de sociétés situées à l'extérieur des Balkans, tout en disculpant l'Occident d'accusations de racisme, de colonialisme, d'eurocentrisme et d'intolérance chrétienne, alors que, somme tout, les Balkans appartenant à l'Europe, ses habitants étant blancs et en majorité chrétiens. Projeter des frustrations sur eux peut donc se faire sans s'attirer les habituels reproches de partialité raciste ou religieuse. Tout en soulignant les différences entre les deux phénomènes, Todorova place le concept du balkanisme dans le lignage de celui d'orientalisme. Le théoricien littéraire palestino-américain Edward Said publie en 1978 l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, une critique de l'impérialisme culturel de l'Orient, ouvrage considéré comme un des textes fondateurs des études postcoloniales. L'orientalisme, écrit alors Said, c'est, je cite, un échange dynamique entre les auteurs individuels et les vastes entreprises politiques formées par les empires britanniques, français et américains sur les territoires intellectuels et imaginaires. Fin de la citation. Son corpus est vaste, écrit de fiction ou savant sur l'Orient, d'auteurs français, anglais et américains, qui œuvrent à l'enjeu de tracer une ligne de démarcation fictive entre l'Est et l'Ouest, ce qui permet à l'Occident, toujours sûr de son ancrage naturel dans le camp de la démocratie et de la civilisation, de mettre en scène son grand contraire complémentaire. Cet autre se laissera caractériser par son irrationalité, par sa féminité, son arriération, sa sensualité, sa dégénération, son despotisme, ainsi que Et ceci encore à la différence de l'Ouest en tant que lieu d'histoire et de développement, son intemporalité. Todorova, quant à elle, ne nie pas l'héritage conceptuel d'orientalisme pour sa propre approche et méthodologie, mais elle accentue les différences entre les deux phénomènes. À la différence de l'orientalisme, qui construit un autre totalement autre et un contre-univers incompatible, une ambiguïté s'est inscrite dans le balkanisme. Grâce à cette ambiguïté, le balkanisme peut provoquer chez les Occidentaux un sentiment de supériorité civilisationnelle et de l'ennui monotone ou un désir clandestin. Les Balkans, écrit Todorova, ont toujours évoqué l'image d'un pont ou d'une zone de transition entre Est et Ouest, mais aussi entre des stades de croissance. Cette image très tenace de pont, souvent accompagnée par celle de l'ante moralis Christianitatis, peut être considérée comme une carte mentale européenne sui generis, se déplaçant au fil des âges d'une région, une nation européenne à l'autre. Hongrie, Autriche, Allemagne, Pologne, Roumanie, Croatie, Grèce, Serbie, Bulgarie, Russie, les Balkans, le slavisme, l'Europe centrale, l'orthodoxie, etc. Fin de la citation. Grâce à cette in-between, cet entre-deux, les Balkans ne sont pas un autre complet, à l'instar de l'Orient, mais pas plus un autre incomplet. Les catégories de religion et race les laissent plutôt apparaître comme soit incomplets, car ce ne sont pas les différences entre catholicisme et orthodoxie, mais bien ce clivage qui apparaît comme quasiment infranchissable entre chrétiens et musulmans, prenant effet dans la perception occidentale. Quant à la question de classe, celle-ci se présente différemment, la posture occidentale étant marquée par une certaine solidarité avec les souverains ottomans, tandis que les parvenus chrétiens dans les Balkans étaient, eux, cibles de critiques et de dénigrements. Les indications de Todorova sur les statuts des Balkans comme soit incomplets sont, à mon avis, très éclairantes et d'un grand secours pour ne pas succomber à un ordre dichotomique. Toutefois, en prenant compte de relations très complexes entre les pays slaves, tout comme de l'histoire européenne du XXe siècle, au vu de l'expérience du fascisme et du national-socialisme, je ne pense pas que l'épithète incomplet soit, au moins pour les pays germanophones, suffisant. À mon avis, il est plutôt nécessaire de rattacher la notion des balkanismes réanimés lors des guerres en ex-Yougoslavie à l'idée d'un soi refoulé de l'Occident. Les positions de Boris Buden, intellectuel autrichien d'origine croate, quant à la Serbie et ce qu'elle propose et provoque comme excès, vont dans une direction semblable. Et là, je lis un extrait d'un texte de Buden écrit en 2008 sur la Serbie. Il écrit: Ce qui fait des Serbes aujourd'hui un excès n'est en rien leur projet politique en tant que tel, mais bien plutôt un surcroît, une surdose esthétique et moralement scandaleux qui, bien qu'étant visiblement un produit politique, ne sera jamais vécu comme quelque chose de politique en soi. C'est cet excès qui domine la vision occidentale aujourd'hui et réduit à néant toute tentative d'inscrire le cas serbe comme moment de l'histoire européenne. C'est ainsi que le regard occidental ne voit aucune ressemblance entre sa propre réalité politique et la Serbie d'aujourd'hui, mais bien plus une différence toujours insupportable. Et c'est justement en ce sens que l'excès serbe revêt une fonction cruciale dans l'autoréflexion de l'Occident moderne. Il est la forme même par laquelle l'Occident se soustrait à ses propres contractions politiques et repousse dans son différent temporel, spatial et, en dernière instance, toujours culturel, les événements politiques traumatiques qu'il ne peut conceptualiser dans le cadre de l'idéologie dominante libérale-démocratique. Mais penchons-nous maintenant sur les textes littéraires, leur mode et stratégie de maniement des balkanismes et des images stéréotypées. On en trouve principalement dans les textes de Peter Handke, qui s'en sert pour créer ou constituer l'autre yougoslave ou serbe. Ces procédés sont la dichotomisation, l'homogénéisation et l'essentialisation. Mais Handke s'en sert dans ce mode d'inversion. On pourrait donc parler des balkanismes au signe inversé. Pour illustrer cette modalité d'inversion, je voudrais vous lire un extrait de « Mon année dans la baie de Person, Manja in der Niemandsbucht », texte de Handke publié pendant la guerre en Croatie en Bosnie en 1994. La baie de Person se trouve en banlieue parisienne. Quant à l'ancienne Yougoslavie, on apprend accessoirement que la devise de Tito, fraternité et unité, bratstvo i jedinstvo, y règne toujours, ainsi que la paix. Le pays qui est en guerre, c'est l'Allemagne. Et là, je vous lis un extrait. Il y avait longtemps qu'on était dans l'avant et on trouvait encore au presbytère quelques réfugiés de la guerre civile ou familiale d'Allemagne. Des réfugiés du nord et de l'ouest, pour une fois, et non pas du sud et de l'est, comme d'habitude. Des Bavarois ou des Essois, des grandes villes, chassés par les Saxons ou les Frisons ou les Sarrois, qui étaient ici plongés dans la torpeur, incapables de rentrer chez eux, bien que la paix y fût revenue depuis l'été déjà. Peut-être aussi parce qu'ils envisageaient de rester pour toujours dans ce pays, presque désert de pain et d'oratoire. Dans ses textes de voyage sur la région des années 90, Handke voit dans la Yougoslavie, puis dans la Serbie, un soi idéal. La Yougoslavie et la Serbie servent à l'auteur à se construire une nouvelle identité, à dépasser son origine autrichienne qui lui semble provinciale et fascisante. Cette découverte de soi à la lumière des autres, Selbstfindung im Licht des anderen, comporte toujours une composante de méconnaissance projective. Mais ceci n'est plus le cas dans son texte de 2008, La nuit morave. On y constate une approche beaucoup plus décontractée, voire ironique quant aux Balkans et l'ancienne Yougoslavie. Un développement qui a certainement aussi à voir avec le changement de genre. La nuit morave n'est pas un texte dans lequel le pacte autobiographique de Philippe le Jeune aurait été conclu. C'est un texte fictionnel, même si certains ont pu y lire le personnage principal du récit comme alter ego de Handke. Au lieu d'épauler des stéréotypes inversés, Handke essaye de manier les Balkans, on pourrait dire en tant que signifiant vide, ce qui souligne le potentiel d'imagination propre à cette notion. Et là, je voudrais vous lire un extrait, c'est mon dernier extrait que je vais lire, mais en allemand, parce que je n'ai pas pu trouver la traduction française, pour ceux qui comprennent l'allemand. Endlich dann zurück auf den Balkan, der diesen Namen verdient. Mochte er auch für die große Mehrheit ein Schimpfwort sein, für ihn und ebenfalls für uns, seine Zuhörer in der moravischen Nacht, war er etwas anderes. Wo hat er begonnen, sein und unser Balkan? Schon lange vor der geografischen und morphologischen Grenzlinie. Balkan, das war zum Beispiel augenblicksweise die Steppe um das verschwundene Numancia in Altkastilien gewesen, als dort ein zerrissener blau-weißer Plastiksack an einer Blaudistel hing und im Wind knisterte. Balkan, die getigerte Falkenfeder neben dem toten Rehbock, der sich bei dem Sturz von einem Kalkfelsen das Genick gebrochen hatte, im deutschen Harz. Die Pfahlhäuser an der Donau östlich von Wien, mit den im Leeren aufgehängten Reusen und dem Gerümpel unter den Häusern in dem Geviert der Pfähle, die ausgedienten Kühlschränke, Gasflaschen, Autoreifen, Balkan. Der Holz- und Kohlenrauch aus dem Rauchfang des Maultrommler Wirtshauses und die Äpfel dort zwischen den doppelt bodennahen Fenstern. Der Sägebock neben dem Großvater- und Bruderhaus, umgekippt, halb begraben zwischen Getränkekisten, Steinhaufen, Teerpappe, Kohlstrünken, vertrockneten und neu austreibenden Zwiebeln. Das Tuten eines Zuges, von sehr weitem Voraushallen, hallend in einer Karstschlucht. Die Schmetterlingspaare in der Sonne, wie sie ineinander, wo auch immer auf der Reise durch Europa auf engstem Raum umtanzten, kaum mehr als Daumennagel groß, rotbraun, mit dem Muster eines orientalischen Teppichs aus Kreisen und Dreiecken auf den Flügeln und die jeweils als drei, wenn nicht mehr, erschienen. All das war schon im Voraus der Balkan. Fin de la citation. Chez les autres auteurs de mon corpus, on peut mettre en évidence des tentatives d'évitement de ces ordres dichotomiques, moi, l'autre, le bien et le mal, jour, nuit, guerre et paix, etc., qui constituent la base des balkanismes, chez Yulitze, ou de contournement, chez Norbert Gstrein, ou de dépassement, Sacha Stanisic, ou de neutralisation, Anna Kim. Pour conclure sur ce corpus, constatons que la préoccupation de Zeke, Stein, Stanisic et Kim avec la Yougoslavie et ses guerres diffère énormément de celle que Peter Handke a entreprise sous forme de récit de voyage. Cela est, à mon avis, dû à l'âge. Stein est né en 61. Stanisic et Kim sont nés, eux, dans les années 70, n'appartiennent donc pas à la génération de 68, celle de Handke. Les relations si complexes entre les pays slaves et germanophones, les ressentiments, idéalisations et projections font déjà partie de l'histoire pour eux et nullement de l'expérience personnelle. Et deuxièmement, c'est le genre. Les œuvres de Tse, Stanisic, Gstrein et Kim sont des romans pris dans le cadre de la licence poétique. À la différence de textes journalistiques, les romans sont suspendus de l'obligation d'une représentation véridique ainsi que de la nécessité de prendre possession. La préoccupation de Zeig, Stein, Stanisic et Kim avec les guerres ex-yougoslaves est une préoccupation littéraire et non une prise de position politique dans le sens de politique courante. Les balkanismes à la Todorova n'y jouent pas un rôle affirmatif. Les Balkans n'y sont pas un contre-espace littéraire, mais un espace d'expérience commune. L'identité de leurs habitants ne se laisse pas réduire aux clichés stéréotypes tels que barbares, violents, etc., ni à une dimension ethnique. Ceci est d'autant plus important que le narratif ethnique a joué un rôle non négligeable dans les interprétations des guerres post-yougoslaves par les commentateurs étrangers, tout en recourant à une notion d'identité essentialisante, partant de l'idée d'une identité fixe et stable, basée sur une sorte de noyau dur, statique et inaltérable. Une autre note marginale, je ne voudrais pas minimiser la mobilisation ethno-nationaliste dans l'ancienne Yougoslavie et l'impact qu'elle a eu, mais je ne suis pas d'accord avec ceux et celles qui voient dans la différence ethnique que l'ancienne Yougoslavie a connue la cause du conflit. Retenons aux travaux de Gstrein, Tse, Stanisic et Kim. Ils prouvent que le texte littéraire dispose d'une marge esthétique et d'une relation métaphorique et en quelque sorte décalée par rapport à ce qui est représenté, ce qui leur permet de créer des mondes alternatifs. Tandis que les discours médiatiques ainsi que les discours politiques sur la désintégration de la Yougoslavie suivent une logique binaire avec les paires d'opposition tels que justice, injustice, ordre, chaos, moralité, immoralité, bien, mal, clair, sombre, ciel, enfer, etc. Cela faisant agrandissent les différences entre une Europe de l'Est, de l'Ouest, pacifique et tolérante d'un côté, des Balkans violents et barbares de l'autre. Tout en ignorant la bonne dose d'ambiguïté que Maria Todorova avait constatée comme inhérente au balkanisme. La littérature a maintenu son pouvoir d'ambivalence, de polysémie, de contre-discours. Il me semble que c'est ça l'enjeu politique de la littérature. Et cette capacité à préserver la polysémie et l'ambivalence nous amène finalement à la troisième et dernière partie de mon exposé sur Homi Kababa et ses théorèmes du tiers-espace et de l'hybridité. Voilà. Homi Baba, né en 1949 à Bombay, et professeur des littératures anglaises et américaines à l'Université Harvard et théoricien des études postcoloniales. En 1994, il publie Location of Culture, une anthologie d'articles rapidement traduits en plus de 15 langues et en 2007 en français, Les lieux de la culture chez Peyo. Influencé par la déconstruction et la psychanalyse, Homi Kababa est un théoricien dont les textes sont souvent assez intangibles, sombres et hermétiques. On y retrouve des procédés dits postmodernistes, montage, bricolage, association, citation, détournement. Style fascinant pour les uns ou fatigant pour les autres. Jouant avec l'arbitraire et le surplus de signification, Le but de Baba est d'ouvrir un espace, une marge de signification et d'interprétation. Opération nécessaire, selon Baba, afin de pouvoir saper les schémas d'ordre binaire et permettre des identifications hybrides des différences sans hiérarchie héritées et de créer un potentiel politique et émancipateur. Il s'agit donc pour Baba d'élaborer et d'offrir des possibilités de décalage et de dérangement des hiérarchies, des possibilités de déterritorialisation. Et ceci, pas seulement pour un engagement théorique, mais pour une lutte d'émancipation, pour une renégociation des autorités politiques et culturelles. Il y a quelques notions forgées ou reconceptualisées par Omeka Baba, très pressantes dans les discours des études culturelles, du moins dans le contexte germanophone. Tiers espaces, hybridité, traduction culturelle, mimicrie, liminalité, ambivalence, etc. Ces notions partagent une carrière qui se laisserait caractériser par les étapes suivantes. Émergence, présence hégémonique et puis, à différents degrés, dévalorisation inflationnaire. La question de savoir si cette dévalorisation inflationnaire peut être due au flou théorique caractérisant son langage est, à mon avis, bien légitime. De ces notions, je voudrais en présenter deux étroitement liées, tiers espaces et hybridité, et questionner succinctement le potentiel d'analyse des catégories avant de passer à ma conclusion. Le tiers espace, ou en anglais « third space ». Faisant suite aux travaux de Lacan et Derrida, le tiers espace de Baba est d'abord une catégorie épistémologique et spatial au sens où il permet ou rend possible la rencontre, la négociation, le débat entre dominants et dominés, tout en essayant d'éliminer une binarité culturelle. Baba se sert donc de la métaphore spatiale, mais il ne conceptualise pas un territoire spécial, même si un tiers espace pourrait se concrétiser dans un espace réel. Nous assistons ici à un phénomène qui n'est pas étranger aux notions de Baba, une confusion entre deux niveaux différents, le littéral et le métaphorique. Même si Baba ne caractérise peut-être nulle part le tiers espace comme catégorie spatiale, nombreuses sont les interprétations suivant cette piste. Ajoutons à cela que la notion third space existe en tant que telle dans les discours autour du tonon spatial. Inspiré par la notion de Baba, le géographe et urbaniste américain Edward W. Soja publie en 1996 « Third Space, Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places ». Un third space, selon Soja, c'est un espace à la fois réel et fictionnel, à l'instar de mégalopoles telles que Los Angeles. Le tiers espace à la Baba, c'est d'abord une figure de pensée, « think figure », un espace qui pense la subversion en dehors des explications habituelles, qui articule au-delà du langage binaire. Un tiers espace qui se caractérise par l'hybridité où l'hybride sera objet et sujet du tiers espace. Dans les textes et interviews de Baba, on y trouve aussi un emploi synonyme de deux figures de pensée. L'hybridité est plutôt le tiers espace qui rend possible l'émergence d'autres positions. Ce tiers espace vient perturber les histoires qui le constituent et établit de nouvelles structures d'autorité, de nouvelles initiatives politiques qui échappent au sens commun. Souvent liée à des enjeux identitaires, la notion d'hybridité ne vise assurément pas au concept d'identité. En novembre 2007, lors d'une conférence à l'Université de Vienne en Autriche, Homi Baba précise tout en dissipant deux malentendus. 1. Ni hybridité ni tiers espace ne visent à des questions d'identité. Et 2. Le tiers espace ne correspond pas à une catégorie spatiale, mais plutôt à une catégorie temporelle. J'arrive à la fin. Faut-il brûler Baba, pourrait-on se demander, au vu des malentendus, les contradictions, le flou théorique? Il me semble que cela reste une mission presque impossible d'appliquer ces catégories d'analyse sur un texte littéraire, car pour rester bénéficiaire Sur le plan heuristique, cela demanderait de violer leur surplus de signification possible, de les réduire et ainsi de les déformer. Ce qui reste à sauver, de chez Baba, c'est alors autre chose. Son scepticisme, sa méfiance vis-à-vis des antagonismes et de polarités, et son vote pour une ambivalence qui caractérise toute relation, relation de pouvoir ainsi bien que relation interpersonnelle. Les rôles entre objet et sujet, entre celui, celle qui pose les questions et celui, celle qui donne des réponses, celui, celle qui donne des ordres et celui, celle qui les exécute, ne sont jamais fixes ou stables, mais dans une permanente négociation. L'ambivalence qui règne n'est pas quelque chose qui sépare objet et sujet du discours, colonial ou hégémonial. L'ambivalence les lie. En ayant les catégories du tiers-espace et de l'hybridité en tête, le chercheur, la chercheuse a peut-être plus de chances d'éviter de perpétuer des hiérarchisations et les mécanismes d'exclusion et d'inclusion. Pour mon travail sur les guerres en ancienne Yougoslavie, cette conscience m'a finalement amené à ne pas seulement étudier les représentations de guerre, les lieux d'identité, mais aussi et surtout me pencher sur le soi, sur le contexte autrichien et allemand. Merci pour votre attention.